Chaque mercredi à 18h, nous venons vous parler de la Palestine et des actions de solidarité et de soutien lors de cette émission Une heure en Palestine. Aussi, nous vous invitons de suivre notre page Facebook, par exemple la page Facebook Palestine 13 ou encore Collectif Marseille-Gaza-Palestine. Vous pouvez aussi taper sur le moteur de recherche Palestine 13 pour retrouver notre site internet très riche qui résume les derniers articles et surtout l'agenda des actions de soutien dans notre région. Pour ce soir, je vous propose une émission de Mediapart. Elle fait écho au cri lancé au monde par le jeune poète palestinien Moussab Abou Taha. Moussab Abou Taha, il dit « Le crime le plus odieux est de s'habituer à tout ça et de se taire. » Bien sûr, il fait référence au génocide du Gaza et aux crimes quotidiens. Plus de 39 000 morts. Mediapart a invité pour cette émission Amélie Ferry, qui est responsable du laboratoire de recherche sur la défense, LRD, à l'Institut français des relations internationales. Elle est en même temps chroniqueuse sur Mediapart. Aussi, elle a invité Ziad Majed, politologue, professeur à l'Université américaine de Paris, et Rachida El-Azouzi, journaliste à Mediapart. Bonne écoute. Merci.
Salut, bienvenue sur Mediapart. Il y a la politique en France, les JO, les élections américaines en novembre avec le retour possible de Donald Trump, le climat qui continue de dérailler. Mais dans cette actualité, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier ce qui se passe à Gaza. Gaza bombardé continuellement, ça fait 286 jours par l'armée israélienne après les attaques du Hamas et d'autres groupes palestiniens le 7 octobre 2024 en Israël. Selon une estimation parue dans la revue médicale de Lancet récemment, ce ne serait pas 38 000 personnes, mais possiblement au moins 186 000 personnes qui ont été ou pourraient mourir dans ce conflit interminable. On en discutera. Gaza, l'horreur sans fin, c'est à l'air libre. L'émission en accès libre de Mediapart. Le crime le plus odieux est de s'habituer et de se taire. Ces mots sont ceux du poète palestinien Moussab Abou Taha sur le réseau social X le 4 juillet. À Gaza, les massacres de l'armée israélienne se succèdent. Alors que le monde regarde ailleurs, les souffrances des Gazaouis, chaque jour bombardés, tués, affamés, semblent de moins en moins entendues. Le cessez-le-feu annoncé n'est toujours pas là. La solution politique qui, de l'avis général, est la seule issue possible, est encore plus lointaine. La tension régionale est à son comble. Benjamin Netanyahou est toujours Premier ministre, toujours soutenu par la livraison d'armes américaines, de bombes américaines en réalité. Le Hamas n'a pas été terrassé. Les otages israéliens ne sont toujours pas libérés. L'opinion publique mondiale dénonce un génocide, tandis que la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêt contre plusieurs dirigeants du Hamas, mais aussi Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Voilà pour un premier tour d'horizon aussi rapide que déprimant et de quoi commencer la discussion avec nos invités. Rachida El-Azouzi, salut, journaliste à Mediapart, Amélie Ferré, bonjour. Vous êtes chercheuse responsable du laboratoire de recherche sur la défense au sein de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la région, et on peut désormais lire vos chroniques sur Mediapart. Merci d'être avec nous. Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Chaque jour, je l'ai dit, les attaques mortelles d'Israël à Gaza continuent. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, la semaine passée a été une des plus meurtrières depuis le 7 octobre. Alors, on peut faire la liste. Au moins 90 morts samedi dernier dans une série de frappes sur la zone humanitaire, donc protégée, selon le droit international de Al-Mawasi, près de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Le but de l'opération, selon Israël, était de frapper un des responsables du Hamas, Mohamed Deif. Ce mardi, au moins 23 déplacés palestiniens tués dans une école de l'UNRWA, dans le camp de réfugiés de Nusayrat. Et puis, la semaine passée, on a presque déjà oublié, pendant que l'Europe regardait l'Euro de foot, cette frappe contre une autre école de l'UNRWA à Khan Younes, pendant que des réfugiés, justement, jouaient au foot. Regardez, ça se passe de commentaires. Ziad Majed, malgré les massacres, Gaza semble sorti du radar. est-ce que nous nous sommes habitués au pire ?
Oui, je pense que ce qui est de plus triste dans cette situation par rapport à nous, à distance, c'est cette banalisation de la mort des Palestiniens. On a normalisé, on vit avec un génocide à 4 heures de Paris. Les images, les souffrances, les récits, les rapports ne font plus un effet au niveau au moins de la classe politique et d'une partie des médias. Restent les mobilisations populaires, une partie de l'opinion publique.
On parle de nous, ici en France, en Europe, aux États-Unis, mais dans le reste du monde, Gaza continue d'être un sujet important ou là aussi il y a une banalisation ?
Moi je pense qu'avec le temps, même là-bas, il y a une banalisation. Si on regarde par exemple le monde arabe, il y a les émotions, mais il y a aussi le sentiment d'impuissance. Il y a des régimes qui ne souhaitent même pas voir des manifestations de soutien aux Palestiniens parce qu'ils ont toujours peur que cela ait aussi des slogans anti-régime en place. Dans le reste du monde, il y a aussi des préoccupations, il y a des conflits invisibilisés. Mais ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, couvert avec tellement de documentation, l'un des conflits les plus documentés de l'histoire, après 10 mois quand même, on trouve que la réaction non seulement des gouvernements, mais même de plusieurs acteurs intellectuels, universitaires, n'est pas à la hauteur. Il y a un éducide en place, il y a 106 professeurs universitaires par exemple tués, il y a des dizaines de médecins tués, il y a des dizaines de journalistes tués. Et dans les corps professionnels qui doivent tout de suite exprimer leur solidarité, leur dégoût, leur refus de ce qui se passe, la réaction est très lente et je crains que vivre avec le génocide, c'est juste s'habituer à l'horreur et faire semblant de continuer une vie sans être tout le temps interrompu et perturbé par les cris et par les cadavres. Et c'est terrible.
S'habituer à celle-là et s'habituer à d'autres plus tard aussi. Là-dessus,
je crois que Ziad a dit quelque chose de très important. Il semble que ce soit normal, que ce soit le cours normal de l'humanité, le cours normal de l'histoire, que les Palestiniens soient tués, soient massacrés, soient spoliés de leurs terres. Et je crois que c'est apparu de manière flagrante à partir du 7 octobre, mais c'était déjà le cas auparavant. Et j'ai envie de citer un jeune rappeur un jeune rappeur palestinien, MC Abdoul, qui a 15 ans et qui chante « Je suis juste un enfant de Gaza ». Est-ce que je peux vivre ? Est-ce que nous pouvons vivre ? Je crois que c'est la question qui est posée aussi aujourd'hui au monde entier par le peuple palestinien. Est-ce que nous méritons la vie ? J'ajouterais aussi que je ne sais pas si c'est la guerre la plus documentée de l'histoire, même si on a cette impression-là, notamment par les réseaux sociaux, ou si par, je vais citer la couverture que nous on fait à Mediapart, qu'on essaie de construire de manière méthodique, mais il faut rappeler quand même que ce territoire nous est interdit. Il est interdit à la presse étrangère. C'est un scandale, il faut continuer à le dénoncer. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent porter la documentation de la guerre à Gaza, ce sont les journalistes palestiniens. Et Ziad l'a dit, ils sont assassinés. Le droit de savoir est assassiné chaque jour. Plus d'une centaine de journalistes, comme on l'a documenté, sont morts à Gaza. Sans oublier les journalistes qui ont été blessés, sans oublier les journalistes qui ont été arrêtés.
Amélie Ferré, sur cette question de la banalisation, vous regardez aussi beaucoup ce qui se passe du côté de la société israélienne. C'est intéressant aussi. Est-ce que sur cette discussion de la banalisation, parce qu'elle est importante ?
Justement, je pense que la couverture journalistique, elle est tout à fait centrale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de la société israélienne, il y a très peu de couverture sur ce qui se passe à Gaza. Donc évidemment, il y a des soldats qui sont déployés et qui, du coup, ont leur perception du front. Mais la couverture en tant que telle, pour l'arrière, pour les familles qui essayent de comprendre ce qui se passe, elle est complètement inexistante. Et c'est pour ça que le fait qu'Al Jazeera ne soit plus présent dans l'espace médiatique israélien est complètement dramatique.
Parce qu'il a été interdit par Benjamin.
Exactement, exactement. Donc en fait, les Israéliens vivent dans une forme de bulle cognitive et ont l'impression qu'ils sont dans une citadelle assiégée et que le monde les critique par rapport à ce qu'ils font aux Palestiniens, alors qu'ils sont eux-mêmes convaincus d'avoir l'armée la plus morale du monde.
Rachida, que ce qui se passe à Gaza, c'est difficile de décrire ce qui se passe, mais dresse-nous le tableau aujourd'hui de la vie des Gazaouis. Tu as parlé avec certains récemment.
Tout à fait. La situation est catastrophique. On est face à un processus de destruction de masse de la vie et de tout ce qui permet la vie. Chaque coin de Gaza aujourd'hui peut être votre tombe. Depuis près de 10 mois maintenant, Israël, en plus de bombarder sans discontinuer Gaza, affame, assoiffe la population, elle la soumet à un blocus impitoyable, elle entrave l'aide humanitaire, son acheminement, ce qui fait que des denrées vitales, de la nourriture, des médicaments, du matériel médical, du carburant ne peuvent pas passer alors que les besoins sont immenses. Ces derniers temps, j'ai échangé quotidiennement avec des Gazaouis. Je pense notamment à Farida Adel Al-Roul, qui est une des dernières à avoir témoigné dans Mediapart. Son récit est absolument insoutenable. Elle explique son combat quotidien pour trouver de la nourriture, pour trouver de l'eau. Elle passe 16 heures par jour pour trouver un petit peu d'eau, un petit peu de nourriture, et ça ne suffit pas à nourrir toute sa famille, sachant qu'une partie de sa famille, notamment ses parents, sont toujours dans le nord, alors qu'elle a été déplacée plus de 20 fois depuis le 7 octobre. Elle a été déplacée plus de 20 fois, parfois à certains jours, déplacée deux fois dans la même journée, avec notamment ses grands-parents. Et ses parents, dans le nord, n'ont plus rien à manger. Il y a 10 des experts indépendants de l'ONU qui, la semaine dernière, ont dit qu'il y avait une famine en cours à Gaza et qu'elle était la conséquence d'une forme de violence génocidaire, je les cite. Ces derniers temps, il fait également très chaud, les chaleurs ajouté à l'accumulation des déchets qui ne sont pas traités, aux eaux usées qui ne sont pas traitées, crée une situation d'insalubrité totale, avec des nuisibles qui prolifèrent, des rats, des moustiques. Donc ça rajoute un caractère encore plus intenable à la situation.
– Il y a toujours beaucoup de déplacements.
– Tout à fait, plus de 80% de la population est déplacée. On les envoie dans des zones prétendument sûres qui sont ensuite bombardées par Israël. C'est arrivé à la famille de Farida. Et il faut parler aussi du système de santé. Il est en partie effondré. Plus de la moitié des hôpitaux de Gaza ont été détruits, comme les écoles, comme les universités, comme les routes, comme les canalisations, toutes les infrastructures qui font la vie. L'enclave de Gaza est aujourd'hui méconnaissable. Et ce matin, j'ai eu un médecin gazaoui qui exerce dans un des hôpitaux au sud.
Des hôpitaux.
Il me disait « je suis exténué ». Il me disait « j'ai jamais été aussi exténué que ces derniers jours ». Les conditions dans lesquelles on travaille sont apocalyptiques. Je n'ai même plus de mots pour te décrire comment j'exerce aujourd'hui mon métier à Gaza.
Amélie Ferré, en ce moment, les centres et écoles de l'UNRWA, l'Agence palestinienne pour les réfugiés, sont particulièrement ciblés, 6 dans les derniers jours, selon l'UNRWA. Elle affirme que 70% de ces 183 écoles ont été touchées par des frappes depuis le 7 octobre. Presque toutes servaient d'abri à ces déplacés, justement. Cette agence de l'ONU là reste la cible militaire et aussi politique aujourd'hui d'Israël.
Oui, tout à fait. En fait, ça fait très longtemps que l'UNRWA est dans le viseur de l'extrême droite israélienne, parce que l'UNRWA a une définition des réfugiés qui, en fait, se transmet de génération en génération. Et donc, ça fait que ça augmente le nombre de réfugiés qui auraient potentiellement un droit au retour sur la terre de laquelle ils ont été expulsés en cas de paix. Et donc, c'est pour ça que c'est une cible politique de la part de l'extrême droite israélienne. Et par ailleurs, on peut expliquer en fait le fait qu'il y ait autant de cibles sur des civils par deux décisions qui ont été prises par Israël. D'une part, dans le ciblage, c'est-à-dire l'identification qu'ils ont de ce qu'ils doivent frapper ou non pour atteindre leur objectif militaire, ils ont ciblé ce qu'ils appellent des power targets, c'est-à-dire des cibles qui sont clés dans la structuration de la société palestinienne, de manière justement à désorganiser la société palestinienne et à faire en sorte que le peuple gazaoui se révolte en fait contre le Hamas et donc essaye de livrer des informations sur le Hamas, qui n'est pas le cas, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'on bombarde des populations civiles, en fait, les populations civiles se soudent avec leurs dirigeants, comme ça a été le cas, par exemple, à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et l'autre point qui explique ça, c'est la dilution du principe de proportionnalité. C'est-à-dire que là où, pour Oussama Ben Laden, vous aviez 30 civils qui était accepté par la Maison Blanche pour tuer Oussama Ben Laden, qui était quand même l'ennemi public numéro un des États-Unis. Là, pour quelqu'un qui fait partie du Hamas, qui est un junior operative, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait le grade de même pas de lieutenant, exactement, donc, qui est en charge d'une petite unité, ils peuvent tuer jusqu'à 100 personnes. Et pour un haut commandant, c'est 300 civils. Donc, en fait, on est dans un dans un principe où tous les civils sont complètement considérés soit comme partie prenante avec le Hamas, soit comme quantité négligeable avec cette idée que il faut faire feu de tout bois. Et donc c'est pour ça qu'ils ciblent aussi des écoles et des hôpitaux.
Ziad.
Oui, moi je pense que aussi la question clé, c'est cette destruction de la société palestinienne. L'idée d'anéantir toute possibilité d'existence d'une entité palestinienne, si on voit la politique adoptée depuis le début de cette guerre, à la fois il y a l'urbicide, donc la destruction de tous les espaces urbains, les grandes villes. Gaza, c'est la plus grande ville de la Palestine historique, démographiquement parlant, détruite presque aujourd'hui. Il y a des domicides, l'idée de frapper les Palestiniens dans ce qui est de plus intime, le chez-soi, là où il y a les souvenirs, là où il y a une appartenance, un voisinage, un tissu social, un vécu. Il y a l'écocide, donc tout leur système d'agriculture, tout le système écologique dans lequel ils peuvent vivre, qui a été frappé, brûlé. Les images satellites montrent une différence énorme entre certains terrains où il n'y avait même pas d'opération militaire. Donc l'idée est claire, c'est juste de brûler et de détruire. Et puis il y a ce qu'on avait évoqué, l'éducide, donc tout le potentiel humain, l'avenir des Palestiniens, l'enseignement, l'éducation, l'anéantir également. Et c'est pour cela que quand on parle d'un génocide, il y a non seulement ces pratiques-là qui le confirment avec la famine orchestrée, avec l'aide humanitaire souvent bloquée par décision, avec le siège. Il y a en plus toutes les déclarations. Et toutes les métaphores et tout ce qui a été dit pendant un moment qui mène à cela et qui traite les Palestiniens d'êtres vivants et non pas d'êtres humains qu'on peut tuer. Même il y a le 972 magazine, le journal israélien en ligne, qui évoque à partir de témoignages de soldats que de temps en temps, quand ils s'ennuient puisqu'il n'y a pas de combat, ils ont eu l'autorisation de tirer, de brûler, et ils se filment en le faisant, parfois en envoyant même des cadeaux volés aux maisons palestiniennes à leur famille. Donc c'est une situation de génocide.
C'est vrai qu'il y a des déclarations génocidaires des dirigeants israéliens, je pense notamment au président Herzog, qui avait dit aucun civil n'est innocent à Gaza. Donc ça veut dire que, ce qu'a très bien expliqué aussi Amélie, c'est que finalement, chaque civil à Gaza est une cible légitime.
Et simplement, ce que je dirais, c'est que pour observer s'il y a un génocide ou pas, on peut voir les pratiques, donc comment ils font leur ciblage, quel type de munitions ils utilisent, où est-ce qu'ils ciblent, etc. Mais on peut voir aussi effectivement le discours, puisque toute la notion, elle repose sur la question de l'intention. Et en fait, dans le discours de l'extrême droite israélienne, l'idée, c'est que leur vision du conflit, c'est que en fait, il faut réduire les Palestiniens à une minorité qui pourrait tolérer en Israël sur le modèle des Palestiniens qui vivent déjà en Israël, et que donc pour ça, soit on expulse les Palestiniens, soit on les tue en fait. Et le discours politique, il en est là aujourd'hui.
Et c'est le vœu notamment des deux figures suprémacistes juives que sont Smotrich, ministre des Finances, et Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Et ils le disent clairement, pour eux, il faut recoloniser Gaza, il faut expulser... et ils ont aujourd'hui des portefeuilles et un rôle très important au sein du gouvernement Netanyahou.
On va y venir sur le gouvernement, mais le 5 juillet, je reviendrai aussi là-dessus, une note de 3 chercheurs spécialistes de santé publique est parue sur la site de la revue médicale de Lancet. Voilà ce que dit cette note. Dans des conflits récents, les morts indirectes vont de 3 à 15 fois le nombre de morts directes. En appliquant une estimation très prudente de 4 morts indirectes pour un mort direct, donc ils choisissent d'une certaine façon, il n'est pas aberrant d'estimer que 186 000 morts, ou même plus, puissent être attribués au conflit en cours à Gaza. La population de Gaza étant en 2022 de 2 375 000 personnes, ça signifierait la mort de 7 à 9% de la population de la bande de Gaza. Cette étude, elle n'est pas parue dans la revue, mais sur le site, donc c'est un peu différent, on y reviendra. Elle a été critiquée sur ses méthodes par d'autres scientifiques. Elle a quand même un mérite, c'est d'évoquer ce nombre de morts dites indirectes, c'est-à-dire dues à l'absence de soins, d'eau, de nourriture, t'en as parlé Rachida, dont on parle jamais vraiment, qui existe pourtant dans tous les conflits, Amélie Ferré. Et elle, évidemment, elle donne un peu le vertige, puisqu'on se rappelle que dans les mois précédents, la question c'était de savoir est-ce que les chiffres donnés par le ministère de la Santé palestinien, aujourd'hui 38 000 morts, sont fiables ou pas, ils ont toujours été remis en cause par différentes instances, et notamment le gouvernement israélien. Aujourd'hui, là, ce qui est donné comme ordre d'idée par ces chercheurs, c'est de toute façon radicalement différent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude ?
Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement, dans le décompte, il faut faire la distinction entre donc rap et les morts indirectes. Donc là, il y a tous les gens qui sont morts aussi ensevelis sous les décombres, qui sont morts de faim, d'absence de traitement, d'absence de médicaments à la suite d'amputations, etc. Et je pense que, oui, le gouvernement... Alors, en Israël... Il y a un débat énorme sur ces chiffres parce que, en fait, l'opinion qui est quand même assez répandue, c'est que ces chiffres sont faux et que, en fait, les morts civiles sont fausses aussi et que d'ailleurs les vidéos où on voit des morts civiles sont également fausses. Donc il y a vraiment cette bulle cognitive de dire.
C'est répandu, c'est-à-dire c'est pas quelques personnes qui disent ça.
Exactement.
C'est ce qui se dit.
Non, c'est répandu. Évidemment, on peut pas résumer une société en une phrase, mais voilà. Par contre, le renseignement américain avait déjà alerté sur le fait que les chiffres donnés par le Hamas étaient pour eux sous-estimés. Et le gouvernement, les renseignements militaires américains ne peuvent pas être suspectés de biais pro-palestiniens. Et simplement pour donner un ordre d'idée aussi, parce que c'est très important de bien le comprendre, les cadences en fait, de frappe sur les premiers mois de la guerre ont été inédites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour augmenter leur cadence de frappe. Ce qui fait qu'on a
inédite par rapport à d'autres conflits armés ?
Par rapport à d'autres conflits armés. Et donc, quand on prend par exemple l'Afghanistan, en 20 ans de guerre, 2001-2021, on a à peu près 50 000 morts civils. Quand on prend l'Ukraine, deux ans et demi de conflit, on a à peu près 10 000 morts civils. Donc là, on en est à beaucoup plus, simplement en comptant les morts directes. Donc en fait, tout ça, c'est important pour que les gens arrivent à conceptualiser le fait que ce qu'on voit à Gaza, c'est un taux de létalité d'un conflit qui est quasiment inconnu pour une force occidentale au XXIe siècle.
Oui, j'ajouterais juste par rapport aux chiffres, puisque comme il a été dit, toujours on a questionné la crédibilité des chiffres, on les a attribués au Hamas aussi pour décrédibiliser le nombre ou le décompte des morts. Il faut savoir aussi que le chiffre réel prend en considération le fait que beaucoup de personnes malades qui ont des maladies chroniques ne peuvent plus avoir de soins.
Soins, oui.
Il peut y avoir des complications par rapport à une situation sanitaire qui n'est pas fatale, mais qui le devient vu l'absence d'infrastructures médicales, tous les hôpitaux bombardés, des médecins tués, il n'y a pas de médicaments, il y a des opérations qui se font sans anesthésie, et il peut y avoir après des infections. Quand il y a 20 déplacements, 15 déplacements de la même famille, l'environnement dans lequel on se trouve, on ne le maîtrise pas. Donc il peut y avoir des accidents qui n'ont pas à avoir lieu dans des situations normales, il peut y avoir des problèmes d'électricité, d'incendie, de choses non documentées vu l'ampleur de la guerre qui ajoutent aux chiffres. Et donc on n'est pas très loin d'une réalité aussi catastrophique que ce chiffre le révèle.
C'est important. Juste, je voudrais citer un journaliste palestinien, un de nos confrères, qui me disait, il y a quelques semaines, nous vous montrons 5% de ce qui se déroule à Gaza. Parce que nous ne pouvons pas, en fait, au péril de notre vie, aller plus loin dans la documentation de cette guerre. Mais nous ne vous montrons que 5% de la guerre. Et je crois que c'est important. Et pour se donner un ordre d'idée, je me souviens de l'historien Stéphane Audouin-Roseau, qui, en mars, ou en tout cas cet hiver, dans une interview à Mediapart, on était au 5e, 6e mois, disait que c'était l'équivalent d'1 million de morts en France. Il y a 6 mois, au bout de 6 mois de conflit. Donc aujourd'hui, on est à...
Donc quelle que soit la réalité de cette étude, ce qu'elle nous montre, c'est qu'on est sur quelque chose de massif et qui concerne une bonne partie de la société gazaoui, en réalité, dans ses différentes implications. Amélie Ferret, parlons justement de la cible d'Israël, qui est le Hamas. Aujourd'hui, après et les autres groupes palestiniens aussi, oui. Puisqu'il y a Rachida, tu l'as raconté, un rapport du Human Rights Watch qui nous dit que ce qui s'est passé, les crimes du Hamas le 7 octobre en Israël ne sont pas juste les crimes du Hamas, mais possiblement aussi d'autres groupes palestiniens. La cible donc d'Israël, c'est le Hamas. Aujourd'hui, militairement, mais aussi politiquement, Comment se porte le Hamas? À chaque fois qu'il y a une frappe, la dernière fois, Israël l'a justifié en disant on voulait cibler Mohamed Deif, un chef militaire du Hamas. On ne sait toujours pas si c'est le cas d'ailleurs. Il est dans quel état, d'une certaine façon?
Ça, c'est une question très importante parce que les deux objectifs assignés à l'opération Glaive de Fer, donc l'opération en cours, c'était l'éradication du Hamas et la libération des otages. Et il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que c'est possible d'éradiquer le Hamas ou non. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'au bout de 9-10 mois de guerre, en fait, les capacités militaires du Hamas sont extrêmement réduites. Donc, sur le plan militaire, le Hamas est effectivement défait. Il reste, sur les estimations, donc à peu près, il y avait 5 brigades, il y a 3 brigades qui ont été tuées, et 3 chefs de brigade qui ont été tués, donc il en reste 2. En termes d'équipement, on peut postuler qu'ils ont quand même des équipements assez légers, et qui en plus, c'est très compliqué de bouger de toute façon des équipements lourds dans les tunnels, donc ils sont quand même incapacités sur le plan militaire. Israël a effectivement perdu beaucoup de chars, et en fait, parce qu'il y a eu l'utilisation de drones, donc on voit aussi qu'il y a une stratégie du faible au fort qui quand même est dommageable pour des armées qui ont des équipements extrêmement sophistiqués et très coûteux. Mais sur le plan militaire, le Hamas est quand même extrêmement désarmé et aujourd'hui pas du tout dans l'état où il était en octobre. Et pour Mohamed Deif, donc en fait, ça aussi l'ambiguïté d'Israël, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois, ils réduisent le Hamas à 4 personnes qui sont donc les dirigeants militaires du Hamas et des brigades Zedine Al-Qassam et le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza, donc Yahya Sinwar. Et là, la possible mort effectivement de Mohamed Deif, c'est quand même une victoire sur laquelle Netanyahou pourrait capitaliser en disant, oui, j'ai pas eu Yahya Sinwar, mais j'ai eu Mohamed Deif, donc on peut en tout cas passer à une autre phase de la guerre et peut-être faire un cessez-le-feu. De l'autre...
Elle n'est pas confirmée, hein, cette mort.
Exactement, elle n'est pas confirmée. Alors, elle n'est pas confirmée parce qu'ils ont utilisé un type de munition qui en fait a tout détruit sur la
cible. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, donc c'est très difficile de faire du battle damage assessment, donc de recueillir les évidences ou les preuves pour le dire. Mais cela dit, le fait qu'il n'y ait pas eu de confirmation du Hamas ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas effectivement tué.
Ziad Majed, politiquement, la question se pose peut-être différemment, puisque Amélie nous le disait tout à l'heure, on pense toujours qu'on va casser l'adhésion du mouvement qui est ciblé, et en réalité c'est peut-être le contraire qui peut se produire. Oui.
Alors je pense qu'il y a certainement un affaiblissement militaire du Hamas, même si ces combattants arrivent à mener une forme de guérilla presque partout dans la bande de Gaza, mais politiquement parlant, on est très loin d'une éradication, parce qu'il se peut qu'à Gaza, avec l'ampleur de cette guerre génocidaire, il y a moins d'adhésion au Hamas, ou bien il y a des gens qui se posent très légitimement la question sur comment on est arrivé là, pourquoi, etc. Mais il faut savoir qu'il y a en plus la Cisjordanie, il y a les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Syrie et ailleurs, où il me semble que le Hamas se renforce, étant donné qu'il apparaît aujourd'hui face à une autorité palestinienne en déclin et incapable même de se prononcer sur ce qui se passe et de prendre des mesures pour protéger les Palestiniens de Cisjordanie, où Mahmoud Abbas et l'autorité siègent. Face à cela, le Hamas apparaît comme la colonne vertébrale d'une certaine résistance palestinienne face à l'occupant. Donc leur capacité à recruter, la question de leur présence politique aussi au niveau des négociations,
oui,
en
ça,
tant qu'acteurs...
Ils discutent,
exactement,
de fait.
C'est eux, ouais. C'est les seuls qui discutent du côté palestinien. Tout cela leur donne une marge de manœuvre qui peut plus tard leur permettre de réémerger, peut-être pas comme la force palestinienne qui dirige tout, mais l'une des forces qu'on ne peut pas écarter si on rentre dans un processus politique. On n'est pas là maintenant, mais il me semble que l'affaiblissement du mouvement politiquement parlant et au niveau de l'adhésion d'une partie des Palestiniens n'a pas du tout été accompli par les Israéliens.
Justement, vous parlez des discussions en cours. Alors, le cessez-le-feu, la trêve, la libération des otages, on en a beaucoup beaucoup parlé ces derniers mois, ça n'a jamais abouti. Des discussions sont encore en cours là, à l'heure où on parle, ou l'ont été récemment. Hier, le chef du Mossad, David Bernéa, a affirmé que les conditions posées par Benjamin Netanyahou pourraient mettre en danger un accord avec le Hamas sur la fin des hostilités, la libération de la centaine d'otages. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans ces discussions ?
En fait, Netanyahou avait repris les clauses qui avaient été présentées par Biden pour faire les négociations. Mais le point d'achoppement principal, c'est que Netanyahou ne veut pas s'engager à faire un cessez-le-feu durable s'il y a une libération des otages, mais il veut simplement faire un cessez-le-feu lors de la libération des otages pour reprendre des activités militaires par la suite, alors que le Hamas demande un cessez-le-feu beaucoup plus long, et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Et par ailleurs, donc, il y avait cette volonté de quand même aller envoyer quelqu'un du Mossad pour justement discuter en vue de la libération de ces otages-là. Et la frappe qu'a visée Mohamed Def, elle a eu lieu alors qu'il y avait cette discussion en cours. Donc finalement, l'envoyé du Mossad n'est pas parti et les négociations ont été bloquées. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui agace beaucoup, voire qui désespère les Israéliens, puisqu'il y a quand même une pression très forte qui est exercée par la société israélienne et par les familles des otages.
Depuis des mois.
Exactement, ouais. contre Netanyahou. Donc ce qui se dit en Israël, c'est que Netanyahou, en fait, joue un double jeu et essaye de miner toute négociation d'otages de manière à ne pas mettre fin à la guerre et donc à se maintenir au pouvoir.
Parce que voilà, son avenir politique en dépend. Comment, pour expliquer à ceux qui nous regardent, expliquer que Netanyahou est toujours Premier ministre ? Il a été lâché par son adversaire Benny Gantz, qui était dans le cabinet de guerre maintenant dissous. Alors c'est quoi ? Comment l'expliquer simplement aux gens qui peut-être ne comprennent pas, tout simplement.
C'est très simple. En fait, Benny Gantz ne faisait pas partie de la coalition parlementaire. Donc du coup, sa coalition, elle tient toujours. Il a toujours la majorité au Parlement.
Notamment avec l'extrême droite dont parlait Rachida tout à l'heure.
Non, c'est le système politique israélien aussi, où les élections se font à la proportionnelle au sein du Parlement. Et donc, mathématiquement, il a toujours une alliance lui permettant une majorité. Son alliance avec l'extrême droite, et il peut toujours élargir de temps en temps dans des moments comme celle de la guerre, où il a invité d'autres personnes à rejoindre son gouvernement de coalition. Mais sinon, il peut toujours consolider sa majorité avec des alliances d'autant plus que face à lui aussi, il n'y a pas une alternative qui s'impose de plus en plus, puisque l'opposition est fragmentée et puisque aujourd'hui c'est un moment de guerre, donc tout peut attendre dans un sens.
Ouais. Est-ce que son pari c'est Donald Trump en novembre ? Petite incise par les élections américaines.
Que ce soit Biden ou Donald Trump, pour lui il a un boulevard. En fait, parce que Biden, on le voit, il n'est pas du tout en état d'imposer une pression sur Netanyahou et d'utiliser les leviers qu'il faudrait pour contraindre Netanyahou.
Je le dis beaucoup, mais il a encore livré des armes là récemment, des grosses bombes qui détruisent des quartiers entiers.
Et le point d'ailleurs sur l'opposition, il est fondamental, parce qu'en fait, on a l'impression, nous en France, que si on enlève Netanyahou, ça va changer. Mais non. Parce que Benny Gantz, il a le même agenda que Netanyahou. Simplement, il est plus enclin à faire une négociation pour les otages et moins enclin à aller faire la guerre au Liban. Mais sur la question palestinienne, il y a un accord.
Oui, pour rappeler que le 7 octobre a sauvé et en même temps condamné Benjamin Netanyahou. C'est pour ça qu'il se maintient aujourd'hui par la guerre, alors même qu'il n'a pas réussi à protéger la population israélienne, qu'il n'a pas réussi à faire libérer les otages, et qu'il est quand même le symbole aussi de l'échec sécuritaire du 7 octobre. Mais ce qui lui permet...
Sur lequel il refuse une commission d'enquête.
Tout à fait. Mais ce qui lui permet de se maintenir, c'est la guerre, parce que si la guerre demain se termine, eh bien son gouvernement tombe, et puis lui aussi, c'est la fin de sa carrière politique. Il a plusieurs accusations de corruption, d'abus de biens sociaux, de fraude derrière lui. Donc, c'en est terminé d'un homme politique quand même qui a toujours su, au long de ses ces dernières ces décennies se faufiler et se maintenir en place. Et je voudrais ajouter quand même qu'aujourd'hui la société israélienne, elle est fracturée en deux blocs. J'ai beaucoup d'observateurs qui me disent cela aujourd'hui. Je pense notamment à Ilan Pappé, cet historien qui n'est pas consensuel israélien, mais qui en même temps fait un travail qui parce qu'il porte un discours différent. Il remet en cause notamment le mythe national d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Lui, bon, il parle déjà de génocide, hein, ce qui est très rare dans la société israélienne, qu'on vous dise qu'il y a un génocide en cours à Gaza. Il dit que ce n'est pas de l'autodéfense, c'est un génocide en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'aujourd'hui, la société est fracturée en deux blocs. Il y a deux États. Il y a l'État d'Israël, qui est porté par le bloc libéral, laïque, et puis il y a l'État de Judée, qui est porté par le bloc religieux, et notamment par les colons de Cisjordanie. Et il parle d'une guerre civile froide entre les deux, et lui, ça l'inquiète terriblement. Il me disait, je crains un gouvernement, un avenir encore plus un gouvernement encore plus raciste, encore plus fasciste, encore plus théocratique en Israël. Et ce n'est pas la seule crainte qui est partagée par Ilan Pappé. Il y a vraiment eu de nombreux observateurs ces derniers temps qui me font ce récit-là.
– Tant plus Ziad que sur cette question de voilà, quelle est la suite des choses sur le gouvernement en Israël. Bah, hier, la Knesset, donc le Parlement israélien, par 68 voix contre 9, donc là on parle d'un vote clair, a refusé la création d'un État palestinien. Et la résolution de refus disait que, je cite, « l'établissement d'un État palestinien au cœur de la terre d'Israël poserait un danger existentiel pour l'État d'Israël ». On parlait de négociations politiques tout à l'heure, on n'est clairement pas dans cette optique-là.
Ouais, absolument. En fait, je voulais dire deux choses. La première, par rapport à Biden-Trump, je suis peut-être un peu plus hésitant par rapport à l'option Trump, elle sera pire. Même si aujourd'hui Biden, c'est vrai, a continué les livraisons d'armes, il n'y a pas eu un effort ni une pression pour en finir avec les massacres commis par Israël contre les Palestiniens. Mais il me semble qu'avec Trump, ça peut être pire dans le sens où ça peut, au niveau de la région, créer encore plus de tensions avec l'Iran. Il peut revenir à une certaine politique de pression sur des régimes des pays du Golfe, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, pour soutenir davantage une politique israélienne de réaménagement ou de réorganisation de l'espace palestinien. Donc ça peut devenir pire, surtout qu'un deuxième mandat de Biden ou d'un démocrate peut être un peu plus libéré de certaines considérations. Mais en tout cas, c'est juste une hypothèse. Par rapport à la Knesset et ce vote très important, il révèle à quel point il y a un refus au sein de l'élite politique israélienne, qui représente une grande partie de la société israélienne, de l'existence de l'entité politique ou d'une identité palestinienne. D'ailleurs, le fait qu'on divise les Palestiniens en plusieurs catégories afin de nier leur existence politique et qu'on les traite toujours ou qu'on les appelle les Arabes, pour nier même cette identité palestinienne et le terme palestinien évité tout le temps. On parle par exemple des Arabes d'Israël, donc les citoyens qui subissent une discrimination par rapport à la mobilité, par rapport à la propriété, par rapport à certains cas de justice, etc. Et ils sont les Arabes d'Israël. Puis il y a les résidents de Jérusalem-Est qui n'ont pas de passeport israélien, qui n'ont pas de passeport palestinien. Ils ont une résidence menacée de temps en temps, vu la colonisation aujourd'hui et la présence des Ben Gvir, Smotrich et autres au sein du gouvernement, qui sont eux-mêmes des colons. Ils ne sont même pas issus des territoires de 48 devenus l'État d'Israël. Il y a les Palestiniens de la Cisjordanie qui subissent l'apartheid, la discrimination au niveau de l'espace, au niveau du système de loi qui les gère, la confiscation de leurs terres. Et je pense que l'obsession des colons israéliens et de la droite et l'extrême droite israélienne, c'est la Cisjordanie, ce n'est pas Gaza. Gaza, c'est on les pousse à partir, on détruit, on tue. Mais l'idée, c'est d'annexer la Cisjordanie et d'en finir avec l'existence palestinienne là-bas. Puis il y a Gaza, donc affamé, bombardé, assiégé, et il y a les réfugiés à l'extérieur, donc on vise l'UNRWA pour en finir aussi avec leur statut et ce qu'il peut représenter.
– Donc pour vous, ce vote, il révèle tout ça ?–
Exactement, et j'ajouterais juste qu'on a aussi tendance en Occident à considérer que ce phénomène d'extrême droitisation de la société israélienne est récent. Or ce n'est pas vrai, la droite israélienne et la droite dure arrivent au pouvoir depuis la fin des années 70 avec Menachem Begin, et depuis les années 70, il y a souvent eu des gouvernements de droite avec des parenthèses travaillistes, Yitzhak Rabin assassiné par un extrémiste juif d'extrême droite, dont les descendants siègent aujourd'hui au gouvernement, dans le gouvernement Netanyahou. Il y a eu la parenthèse Ehud Barak, mais sinon, souvent, il y a eu la droite dure avec Yitzhak Shamir, avec Ariel Sharon, Benjamin Netanyahou depuis des années et des années. Donc, ce phénomène existe. Et ce qui a affaibli la gauche israélienne aussi, c'est que les Palestiniens d'Israël, donc les citoyens d'Israël en 48, ont commencé à partir d'un certain moment à créer leur parti politique, à voter pour leur parti politique et ne plus se contenter à voter pour une gauche israélienne qui les trahit à chaque moment décisif de l'histoire, que ce soit au niveau des négociations ou des guerres. Donc c'est une société qui est très à droite, qui refuse aujourd'hui en sa majorité l'existence des Palestiniens politiquement parlant, et tout ce qui se passe aujourd'hui le montre, ce qui peut aussi donner à Benjamin Netanyahou encore plus de temps, étant donné, comme vous disiez, il est menacé non seulement politiquement, mais même au niveau juridique par des affaires de corruption et d'autres si jamais il perd son poste de Premier ministre.
Je vais rapidement là-dessus.
Cette résolution, elle est claire, pas seulement par le nombre de voix pour et de contre, seulement 9, elle est claire parce que c'est un message très fort qui est adressé aussi au principal allié d'Israël, les États-Unis. La semaine prochaine, Biden reçoit Netanyahou, et Netanyahou doit rencontrer le Congrès américain, il doit s'exprimer devant le Congrès américain. Et donc, clairement, il affiche l'option qui, pour lui, est sur la table, qui n'est pas l'option de deux États ou d'un seul État. Son option, c'est le statu quo. Et on le voit au quotidien, finalement, avec la colonisation qui se poursuit en toute impunité en Cisjordanie. On le voit également avec la guerre totale qu'il est en train de livrer aujourd'hui à Gaza. Sa solution, c'est le statu quo. C'est la moins coûteuse. Et c'est son vœu aujourd'hui. C'est celui-ci. Ce n'est pas d'aller de tendre vers une solution de paix pour deux États.
Mais plus que du statu quo, c'est parce que c'est la poursuite de la guerre et aller plus loin dans l'annexion.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Karim Khan, le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a annoncé en mai requérir des mandats d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre des dirigeants du Hamas, Yahya Sinwar, Mohamed Deif, on en parlait tout à l'heure, et Ismaël Haniyeh. Il a aussi requis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant. Ce qui a indigné depuis des mois le gouvernement israélien, ce qui est beaucoup commenté en Israël. Hier, une chaîne de télé, Channel 14, je crois, Channel 14, disait que c'était peut-être imminent, peut-être dans deux semaines, il y a un débat juridique là-dessus, parce qu'on ne sait pas vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord, Amélie Ferré, sur le fait que, c'est ce que disait par exemple le Premier ministre, l'ancien Premier ministre du Likoud, Ehud Olmert, dans Haaretz, il y a quelques jours, vous verrez le jour où ça se passera, nous serons tous finalement jugés coupables, d'une certaine façon. Est-ce que c'est ça, par exemple, qui peut réveiller d'une certaine façon la torpeur de la société israélienne dont vous parlez, ou pas vraiment ?
Alors, en fait, la question de la CPI, c'est une question qui remonte, en fait, dès 2011, quand il y a eu la décision par les Palestiniens de judiciariser le conflit. Parce que les Palestiniens se sont dit, bon, nous, on a renoncé à la force armée par les accords d'Oslo, sauf le Hamas, évidemment. Mais on n'a pas renoncé à avoir un État. Donc, on va utiliser le droit et on va un peu jouer le jeu pour finalement avoir un État. Et donc il y a eu tout un processus que je ne décrirai pas ici, mais bon, pour obtenir que la CPI se déclare compétente. Et ça, la Cour, enfin, la droite israélienne est vent debout depuis, mais très longtemps. Enfin, Netanyahou, à chaque fois qu'il croisait un ambassadeur français, depuis des années, il lui parlait de la CPI. Il a comparé la CPI à un niveau de menace pour Israël qui était sur le même plan que l'Iran. Donc, voilà, la Cour a été, du coup, extrêmement décrédibilisée. Et donc, c'est pas une instance qui va pouvoir, justement, réveiller les consciences, parce qu'il y a déjà eu ce travail de sape, de décrédibilisation.
Discours,
de
un narratif.
Exactement.
Contre la CPI,
par ailleurs, ça arrive quand même, et ça, on l'a rappelé un petit peu, dans un débat sur la nature d'Israël, sur est-ce que Israël est un État démocrate et libéral, et le libéralisme politique, ça veut dire qu'il y a un pouvoir judiciaire indépendant, et ça veut dire surtout que le droit prime sur la politique, ou sinon un Israël théocratique où l'identité juive prime, et donc la pratique politique n'est pas liée par le droit.
Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui.
Exactement, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Il y a eu des manifestations extrêmement importantes en Israël avant le 7 octobre qui se mobilisaient justement sur ça. Et donc du coup, cette question de la CPI, elle donne aussi du grain à moudre à l'extrême droite israélienne pour dire, mais regardez, le droit est complètement déconnecté de la réalité. De toute façon, c'est une cour antisémite et en fait, toutes les cours sont nos ennemis politiques.
Et oui, Ziad, rapidement.
Moi je pense que ce qui est important aussi, tout à fait d'accord, ce qui peut être ajouté, c'est la question de l'impunité d'Israël. Israël a, depuis son existence, a toujours eu une impunité totale, comme une exception au-dessus du droit international. Le fait que la CPI commence à saisir certains dossiers, le fait que la Cour internationale de justice, aussi sollicitée par l'Afrique du Sud, est en train d'examiner un cas de génocide, fait que les Israéliens ne se sentent plus tout le temps au-dessus de la loi, même si ça reste théorique pour le moment, mais qu'ils peuvent être menacés par des instruments que la communauté internationale a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Donc leur réponse est surtout une instrumentalisation de l'antisémitisme en traitant la Cour pénale, la Cour internationale de justice et toute instance qui peut mettre en doute et qui peut modifier cette configuration d'exceptionnalisme au-dessus de la loi, on peut l'attaquer et évoquer l'antisémitisme, ce qui nuit aussi à la vraie bataille contre l'antisémitisme, tellement ça a été instrumentalisé par le gouvernement Netanyahou.
– Pourtant, Rachida, il y a une application concrète de ce qui se passe en Israël par rapport aux droits humains, et c'est pas juste à Gaza, c'est pas juste en Cisjordanie, c'est aussi dans ce qui se passe dans les prisons israéliennes, où là, énormément d'informations, de rapports commencent à être très précis sur le sort fait à des milliers, dizaines de milliers de détenus palestiniens, parfois avec des cas de torture et de mort.
Tout à fait. Alors, des anciens détenus, des ONG de défense des droits humains israéliennes et palestiniennes et des lanceurs d'alerte israéliens ne cessent de dénoncer depuis des semaines, des mois, des conditions inimaginables en matière de torture. Ils documentent précisément des abus systémiques, des tortures systémiques. J'ai notamment travaillé, moi, sur le cas du très précis de Sdeteman, qui est un camp militaire. Donc, ce n'est pas une prison sous la garde de l'administration pénitentiaire, c'est un camp militaire qui est dirigé par l'armée israélienne. Et on n'est pas très loin de Gaza, on est dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Et là, des centaines de Palestiniens de Gaza ont été détenus, enfermés, dans des conditions inhumaines. J'ai pu discuter avec...
– Tu l'appelles le Guantanamo israélien. Enfin, en tout cas, j'imagine
que c'est des anciens détenus, mais aussi les lanceurs d'alerte israéliens le nomment. C'est le Guantanamo israélien. Ils appellent à sa fermeture. C'est un trou noir, c'est une geôle d'exception où les détenus ont un statut très particulier. Comme en Cisjordanie, les prisonniers palestiniens ont ainsi un statut particulier qui est celui de la détention administrative, qui fait qu'il n'y a ni inculpation ni procès. Ici, pour les détenus palestiniens de Gaza, c'est une loi de 2002, c'est la loi sur les combattants illégaux. Donc ils sont sous ce régime qui permet à Israël de détenir pendant 45 jours toute personne susceptible de porter atteinte à l'État, à l'intégrité d'Israël. Et ce qui s'y joue véritablement, des médecins, des employés, des anciens employés ont témoigné, c'est absolument terrifiant. Il y a eu les gens sont forcés à rester les yeux bandés dans des positions intenables. Certains ont dû être amputés de leurs membres, de leurs mains ou de leurs pieds, parce que les menottes sont serrées de telle manière que il y a une gangrène qui se fait et qu'il faut amputer leurs mains ou leurs bras. Donc c'est assez terrifiant. Et il y a aussi beaucoup de violences sexuelles qui sont documentées, notamment des viols.
Et des chiens qui attaquent les prisonniers.
Tout à fait.
Et j'ajouterais juste la déclaration qui me semble extrêmement alarmante et en même temps elle révèle un certain état d'esprit, c'est celle de Ben-Gvir qui dit face à la surpopulation des prisons, il faut exécuter les Palestiniens considérés comme terroristes. Comme ça, on fait face à une situation pareille.
– Amélie Ferry, cette situation, je crois comprendre qu'elle inquiète énormément certaines autorités israéliennes, notamment le renseignement intérieur, qui est très inquiet de la situation, de ce qui se passe dans les prisons israéliennes. Pourquoi ?–
Mais en fait, il y a toujours eu, comme je disais, en Israël, une division avec les personnes qui veulent se battre pour un Israël démocratique et libéral et les autres. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce clash-là qu'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le Mossad, le Shin Bet, eux, c'est plutôt des gens qui sont convaincus qu'Israël doit être une démocratie libérale et que donc il faut, enfin avec tous les caveats évidemment qu'il y a, puisque voilà, ils ne sont pas pour un État palestinien, quoique il y a une certaine partie qui pense que justement il faut un État palestinien pour des raisons stratégiques. Pourquoi ? Parce que Tsahal est une armée limitée. D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a eu quand même là la conscription, enfin en tout cas une ouverture pour conscrire les ultra-orthodoxes, qui sont une réserve donc, de à peu près 5 000 personnes en Israël, donc, et qui normalement ne faisaient pas partie de l'armée, mais qui là pourraient rejoindre l'armée. Et donc Israël, c'est une armée qui est limitée en termes de format, et qui est en fait complètement absorbée dans la colonisation et la surveillance généralisée des Palestiniens, alors que pour certains chefs militaires, il faudrait que Tsahal se repositionne, se dégage en fait des territoires pour se repositionner, pour faire face à des menaces étatiques comme celle de l'Iran. Et l'Iran, là, pour la première fois, a frappé le territoire israélien. Donc oui, ça n'a pas fait de dégâts, mais on est quand même passé sur un stade d'escalade qui est important. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre voilà, cette levée de bouclier qui existe à l'intérieur de l'appareil sécuritaire israélien, qui n'est pas nécessairement fait au nom des droits des Palestiniens, oui. Mais qui s'ancre dans une compréhension en fait, stratégique et qui dit, voilà, l'extrême droite, elle est en train de mener le pays à sa perte.
Rachida, je voudrais qu'on parle quand même, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais c'est important d'en parler. Vous avez parlé de la situation régionale, on va y revenir, et qu'on parle de la Cisjordanie. C'est l'autre foyer de guerre que Israël continue de verrouiller, de réprimer ou grignoter des territoires. On voit ces images qui ont été réalisées pour Mediapart par un photographe qui s'appelle Arthur Larrier, le nom de ce que les Palestiniens de Cisjordanie appellent la route de l'apartheid. C'est la route 4370 qui relie Jérusalem aux colonies israéliennes le long au sud, je crois, de la Cisjordanie. Des photos réalisées pour un reportage d'Alice Froussard que vous pourrez lire sur cette route de l'apartheid, que vous pourrez lire ce week-end sur Mediapart. Rachida, tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure, mais c'est bien de passer un peu de temps aussi là-dessus. Depuis 7 octobre, la colonisation, l'annexion de fait, les routes illégales, les attaques de colons continuent, voire se sont accélérées et amplifiées.
Tout à fait, on peut parler d'accélération en fait depuis le 7 octobre, tandis que les regards sont rivés sur Gaza bombardée, eh bien la colonisation, la politique de colonisation bat son plein, elle bat même des records. Fin juin, il y a eu une annexion de terres par Israël qui a battu tous les records, c'est du jamais vu depuis 30 ans, 1270 hectares si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée. C'est une saisie jamais vue depuis plus de 30 ans et les accords d'Oslo en 1993. Moi-même, j'ai pu le constater sur le terrain en me rendant à la fois dans le sud de la Cisjordanie, mais aussi dans le centre et dans le nord. Notamment, j'ai été dans la région de Massafariata et dans la région d'Hébron. Et là, j'ai pu voir de mes propres yeux, notamment dans le village de Soussia, combien les attaques de colons quotidiennes étaient le lot quotidien des Palestiniens. Et eux n'ont pas d'armes en fait pour répliquer à ça. Souvent, les colons agissent en toute impunité, avec parfois le soutien de l'armée, des soldats. Parfois même, on ne sait plus reconnaître un soldat d'un colon, puisque aujourd'hui, les réservistes peuvent arborer la tenue. Le colon peut arborer la tenue du réserviste et donc avoir une arme et se balader dans des SUV à travers les collines empierrées et faire. Et spolier, hein, c'est accaparer les terres, hein, on est vraiment sur ce cas à la concret. Moi, le village de Soussia, c'est un village qui, quand j'y étais, était encerclé par des énormes morceaux de béton apportés au bulldozer par les colons qui avaient accaparé la colline au-dessus. Et les Palestiniens n'avaient pour répondre qu'un rempart de mots, à savoir les vers de Mahmoud Darwish. C'est assez impressionnant. Et aujourd'hui, il faut le dire, hein, il faut le marteler, en fait, il n'y aura pas de solution au conflit tant que la politique de colonisation va se poursuivre et tant qu'il n'y aura pas de décolonisation. Tout à l'heure, on parlait des prisons. Et elle s'amplifie, bien sûr. Et je voudrais revenir aussi sur les prisons dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est important aussi de redire que la prison, l'enfermement, est un outil, parmi d'autres, de l'occupation. Aujourd'hui, plus de 40% des hommes sont passés par la prison depuis 1967. 40% des hommes palestiniens sont passés par la prison depuis 1967. Ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, cela sert ce supplice quotidien qu'est l'occupation pour Israël.
Christiane.
Non, tout à fait. Moi, je pense que c'est un enjeu majeur parce que ça montre aussi que toute cette zone A, zone B, zone C n'existe plus. Aujourd'hui, la confiscation,
zone
le vol
A, des zones C, pour bien comprendre, c'était les différentes zones en Cisjordanie, c'est ça ?
Après Oslo, exactement. Voilà. Celle gérée par l'autorité, celle où la gestion est mixte et celle qui reste sous occupation temporaire. C'était ça l'idée. Il y a eu des confiscations maintenant partout. Il y a les autoroutes qui sont exclusivement pour l'armée et les colons qui traversent toute la zone. Il y a le murs de séparation, il y a les incendies, ils détruisent les biens palestiniens, les champs d'oliviers, l'industrie, puis il y a les vols même du bétail, des moutons, et souvent soutenus par l'armée israélienne. Donc c'est une situation qui montre aussi la volonté israélienne de ne pas du tout ni céder, ni négocier les deux États, ni permettre aux Palestiniens d'avoir leur autonomie.
– Juste un chiffre, plus de 560 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre.
– Amélie Ferré, vous avez écrit dans votre dernière chronique pour Mediapart, c'est une mécanique de la haine qui se met en place en Cisjordanie.
– Voilà, moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que moi, ça fait depuis 2011 que je vais régulièrement en Israël, j'y ai vécu pendant plusieurs années, etc. Et j'ai quand même vu une dérive extrêmement forte de la société israélienne vers de la haine. Parce qu'au départ, évidemment, la situation n'était pas parfaite en 2011, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Et effectivement, ce qui se passe en Cisjordanie est vraiment au-dessus de toute imagination. Enfin, là, j'aimerais déjà rappeler que Itamar Ben-Gvir arme des milices à l'intérieur de la Cisjordanie, c'est-à-dire qu'il distribue des armes justement.
Il est ministre.
Il est ministre de la Sécurité nationale. Donc c'est lui qui est responsable des prisons. Et effectivement, il a dit que la solution à la surpopulation des prisons, c'était d'appliquer la peine de mort. Et par ailleurs, il arme donc des colons qui, à des fins d'autodéfense, qui donc peuvent simplement aller prendre une arme et ensuite repartir. Donc ça vous dit le niveau effectivement d'effondrement en fait du système juridique qui contraignait un minimum l'armée israélienne. Et là il y a une vidéo qui est extrêmement préoccupante, j'aimerais quand même qu'on en parle, qui est sortie à Jenin, où on voit un véhicule militaire, enfin une sorte de jeep, qui est donc conduit avec sur le capot attaché un Palestinien qui est donc en jean et torse nu, le corps ensanglanté, et qui est promené comme ça autour de Jenin, attaché sur le capot d'une voiture. Donc voilà, je trouve que c'est une image qui donne en fait la mesure de la dérive morale dans laquelle Israël est aujourd'hui.
C'est difficile d'enchaîner sur tout ça, mais je voudrais parler de la situation régionale. On a beaucoup parlé ces derniers jours d'une possible volonté de Benjamin Netanyahou d'étendre la guerre au Liban. Le Hezbollah libanais continue de tirer des roquettes sur Israël. Est-ce que vous êtes, alors Ziad Majed, je rappelle que vous êtes franco-libanais, donc évidemment vous connaissez bien le Liban. Est-ce que vous êtes complètement d'accord sur ça, Amélie Ferré? Vous avez dit sur Mediapart, en citant notamment des sources israéliennes, que l'armée israélienne, qu'elles lui peuvent ou non, avaient quand même un peu cette intention dans la tête, en tout cas des pans de l'armée israélienne. Et je voudrais, voilà, expliquez-nous, et puis Ziad, vous rebondirez, et puis on conclura.
Oui, oui. Voilà, donc ce qui est quand même important pour comprendre la psyché israélienne, c'est que sur le plan stratégique, ils sont face à un dilemme. Et effectivement, Israël est menacé par le Hezbollah, qui a un arsenal de à peu près 150, enfin qui est estimé à 150 000 roquettes, qui est capable de faire des frappes de précision, donc rien à voir avec le Hamas, c'est-à-dire que régulièrement le Hezbollah diffuse des vidéos dans lesquelles, donc c'est des sortes de cartes satellites, où ils identifient des cibles, soit des bases militaires, soit des infrastructures énergétiques, et ils disent attention, on va vous cibler ici, et on a la capacité de le faire parce qu'on a des kits de guidage sur nos missiles, et donc on peut très bien les frapper. Et par ailleurs, il y a quand même 80 000 personnes israéliennes qui sont déplacées au nord d'Israël, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rentrer chez elles. Là, elles avaient l'espoir de rentrer pour scolariser les enfants à la rentrée scolaire, mais finalement, ils vont devoir rester plus longtemps, ce qui coûte très cher à l'État d'Israël. Donc, Israël se dit, voilà, après le 7 octobre, on ne peut plus revivre en se disant ce qu'ils disent en hébreu, yébécédère, c'est-à-dire ça va aller. Le Hezbollah, bon, il nous envoie quelques roquettes de temps en temps, mais on va partir du principe que ça va bien se passer. Je pense que ça, c'est plus possible pour les Israéliens. Et donc, ils sont dans un dilemme stratégique. Pourquoi ? Parce que s'attaquer au Hezbollah, ils le font déjà, on y reviendra, mais s'attaquer, c'est-à-dire vraiment avoir une offensive terrestre pour déloger le Hezbollah et les faire reculer derrière le fleuve Litani, ça veut dire prendre des salves de roquettes qui peuvent saturer le dôme de fer, donc leur défense antiaérienne, et donc qui peuvent avoir donc, des frappes qui sont vraiment dans les villes Raïfa, etc., beaucoup plus importantes. Alors ça, je pense que cela dit, ce risque, il peut être mitigé justement si les Américains envoient un porte-avions dans la région pour traiter du porte-avions une partie des salves de roquettes. Ce serait un scénario qui serait possible, mais qui dépend effectivement de la volonté de la Maison-Blanche.
Ziad, sur la possibilité d'une extension, ça, c'est aussi une des choses dont on parle beaucoup, évidemment, et puis on voit qu'évidemment, c'est très tendu, bien sûr, quand même, il se passe pas rien, c'est quand même tous les jours...
Moi, je pense que la guerre est déjà là, depuis le 8 octobre. Côté libanais, il y a aujourd'hui près de 600 morts, dont plus d'une centaine de civils. Parmi les civils, il y a aussi des réfugiés syriens au Liban. Il y a des secouristes, des ambulanciers, il y a trois journalistes et leurs chauffeurs. Donc, et il y a évidemment les combattants du Hezbollah et de certaines autres formations. Donc la guerre est là, il y a 100 000, 90 000 à 100 000 déplacés internes libanais qui ont quitté leur village dans la région du sud du fleuve Litani. C'est un fleuve qui parcourt le pays de l'est vers la mer Méditerranée en séparant le sud en deux parties. Donc les Israéliens considèrent qu'il y a une condition pour eux, pour cesser les bombardements, c'est à la fois que Hezbollah arrête d'envoyer les missiles et qu'il retire ses armes et ses membres vers le nord du fleuve Litani. Sauf que c'est pas réaliste, les membres du Hezbollah sont souvent les enfants des villages et des villes du sud Liban, donc ils vont pas se retirer de leur maison pour aller vivre ailleurs. Il peut y avoir un compromis s'agissant du retrait des armes lourdes du Hezbollah vers le nord du fleuve Litani, et de toute façon il y a la FINUL qui est déployée là-bas depuis 1978, la première invasion israélienne du Liban, Hezbollah n'existait pas.
– Force onusienne donc.
– Une force onusienne. Et elle a été, exactement, il y a à peu près 700 Français aujourd'hui qui font le service logistique et militaire. Donc 78, elle s'est déployée au sud du Liban. Et puis après la guerre de 2006, il y a eu une nouvelle résolution, 1701, pour que son déploiement soit consolidé, renforcé. Sauf que du côté israélien, il n'y a jamais eu non plus un respect de la 1701, puisque les drones et l'aviation israélienne violent tout le temps la souveraineté libanaise. Et si on vit dans le sud, on entend le bruit extrêmement désagréable et pénible à longueur de journée. Donc, du côté israélien, il doit y avoir aussi un respect de la souveraineté aérienne libanaise. Et les négociateurs aujourd'hui, que ce soit les Qataris, les Français, les Britanniques ou surtout les Américains, essayent de trouver un compromis autour de cela. Un retrait des armes lourdes du côté Hezbollah et que les Israéliens arrêtent les drones. Mais on est très loin. Ce qui fait que les risques de voir une intensification des bombardements, le risque est là, évidemment. Et à chaque fois un émissaire occidental arrive à Beyrouth, il menace le gouvernement libanais en leur disant que si Hezbollah n'arrête pas, Israël va envahir le Liban. Ils ont donné, les Français par exemple, avaient évoqué juin comme le mois où Israël va envahir le sud du pays. Les Britanniques ont parlé du 15 juillet. Ils ont donné une date encore plus précise. Aujourd'hui, on a dépassé cela. Les Américains évoquent le 1er septembre, date de la rentrée scolaire. Donc les déplacés israéliens doivent revenir chez eux pour faire leur rentrée scolaire là-bas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de menaces, car les Israéliens, aujourd'hui, militairement parlant, n'ont pas les moyens d'envahir. Mais par contre, ils ont les moyens de détruire le sud du fleuve Litani, donc une grande partie du sud, ce qui est en cours aujourd'hui. Ils ont utilisé à 113 reprises le phosphore blanc. Et il y a des villages dévastés, il y a des zones agricoles brûlées avec toutes les pertes humaines. Et il y a énormément de pression aussi au Liban, parce que c'est un pays qui connaît un effondrement économique et financier. Même les gens qui ne veulent pas quitter, ils n'ont pas les moyens non plus, si jamais il y a des dégâts, de réparer leur argent s'ils en ont est bloqué au niveau des banques. Il y a en 2006 la reconstruction de Liban s'est faite avec des soutiens des pays du Golfe. Aujourd'hui ça ne va pas être le cas pour des raisons politiques. L'Iran avait avec les prix du pétrole beaucoup de budget, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a aussi du côté libanais beaucoup de craintes que cette guerre s'intensifie et mène à plus de dégâts. Mais moi je ne pense pas qu'on est vers une confrontation ou un affrontement qui va mener à des troupes sur le sol qui envahissent, car la force de frappe de Hezbollah est quand même importante d'un côté et de l'autre parce que peut-être les Israéliens ont le scénario des destructions plutôt que de l'engagement des troupes.
Question tactique dont parlait Amélie aussi.
Ce qui fait que, juste, et je termine là, la situation aussi au Liban, elle est clivée par rapport à Hezbollah, ce qui rend les choses encore plus compliquées dans un pays qui connaît une série de crises. Mais face à tout ça, je essaye toujours de rappeler que le mot-clé reste l'impunité. Il y a une impunité israélienne, même si elle est un peu menacée aujourd'hui, et tant mieux, mais cette impunité-là mène aussi à une arrogance, y compris celle des menaces. On va vous envahir, on va vous détruire. Le ministre de la Défense israélienne a dit qu'on va faire, comme sur les ordinateurs, copier-coller Gaza au Liban. Un autre a dit qu'on va vous renvoyer vers l'âge de pierre. On va vous anéantir. Donc, cette impunité qui mène à des déclarations arrogantes et criminelles, voire génocidaires, doit aussi être sous les radars de
Amélie,
tout le monde.
Amélie, petit mot de fin.
Petit mot, je pense que ça peut aussi résoudre plus ou moins notre différence d'interprétation, parce que je pense que c'est justement cette perception qui est en fait biaisée du rapport de force et de la réalité qui mène Israël à une impasse stratégique. C'est parce que même s'ils savent rationnellement que ça va leur poser un dilemme en termes de stock de munitions, de frappe, voilà, de chars, ils le savent, mais ils sont tellement en fait dans une bulle cognitive où ils se disent voilà, on est plus fort que le Hezbollah et on va les réduire à l'âge de pierre, que c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice.
Ouais. Donc qu'ils parlent du Liban, de le réduire à l'âge de pierre plutôt que de Hezbollah.
Bon, merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. On a consacré une heure à cette situation et ça nous paraît évidemment bien normal vu tout ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs. Merci à vous de nous suivre. C'était la dernière émission de la saison, émission en accès libre, vous le savez, ça nous est possible grâce à vos abonnements. Si vous le pouvez, abonnez-vous à Mediapart. Un petit mot de remerciement à toutes celles et ceux que vous voyez ou que vous ne voyez pas qui fabriquent cette émission avec moi. J'ai nommé Valentine Auberti, Lénaïque Bredoux, Bérénice Gabriel, Célia Mebroukine, la rédaction de Mediapart, les équipes gestion, accueil, support, marketing, réseaux sociaux de Mediapart. Il y en a beaucoup qui nous aident au quotidien. Merci à Raphaël Grimm-Marquis, à Arnaud Pédram, à nos monteurs, Martin Bessin, Julie Morange, Sidoine Tesson, Camille Busquets, Pierre-Louis Devet à la régie, Pierre Catan, Stéphane Pruvot, Jimmy Beaufils, Alex Hué, Pierre Drio, Justine Mazoyer, Julien de Cognac et tous les autres. À l'air libre reprend évidemment à la rentrée. On se retrouve très précisément le mardi 10 septembre. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.